Chapitre 46. Lever et se lever. Clémence éprouve maintenant un réel plaisir à cuisiner. Elle a expérimenté une nouvelle recette. Après les orties, elle s'est mise en quête de toutes les plantes sauvages qui pouvaient être consommées, les fleurs en particulier. Elle, qui aime jouer avec les couleurs dans ses aquarelles, a commencé à transformer les assiettes en œuvres d'art. Quand Karine et Rémi s'installent à table ce soir-là, ils savourent d'abord avec les yeux. Des tomates rouges, des jaunes, des noires, coupées en tranches fines et disposées en alternance. De la salade verte en lamelles mélangée à un entrelac de jeunes feuilles issues d'une cueillette sauvage. Des chénopodes, de l'oseille, du plantain, du lamier pourpre, de jeunes feuilles de bourrache. Au centre de l'assiette, un œuf dur coupé en deux. Et saupoudré de quelques herbes finement ciselées, ciboulette, persil, cerfeuil, verveine citronnée, un morceau de fromage légèrement affiné issu de la toute première transformation. Clémence a passé toutes ses matinées avec Adrien pour l'aider à traire, à nourrir, à soigner les chèvres, puis à transformer le lait. Après une semaine, les gestes deviennent plus sûrs, les mouvements plus rapides. Elle aime particulièrement voir le lait se figer en quelques heures sous l'effet de la présure, le couper en petits morceaux avec le tranche-caillé, puis le malaxer longuement en plongeant son bras jusqu'au coude, se sentir enveloppé, caressé par cette matière douce et chaude qui glisse sur sa peau avec une tendresse maternelle. Quand elle regarde les chèvres gambader dans les champs et le fromage dans son assiette, elle se dit que les étapes qui ont mené des unes à l'autre relèvent de la magie. Rémi ignore le nom de toutes les fleurs qu'il a sous sa fourchette. Il reconnaît seulement les pensées. Clémence complète ses connaissances en lui présentant les pétales de capucine jaune et orange, les fleurs de bourrache d'un bleu intense, les consous de violette. Il en vient partout dans le jardin. Quelques pétales de soucis dorés et de trèfles, enfin des pâquerettes. Elle a aussi fait du pain aux noix avec celle récoltée l'an passé. Pour sa première fournée, elle a profité de l'expérience de Capucine. Elles ont œuvré en parallèle. Clémence a trouvé difficile de pétrir la pâte avec ses maigres poignets et ses doigts étiques. Mais le pain va les muscler. Il est temps qu'elle se fortifie. Tant qu'elle malaxe son existence avec le bon levain, qu'elle lève et se lève enfin. Rémi l'observe. Il l'a vu évoluer à une vitesse déconcertante. Passer du stade de petit moineau fragile et blessé à celui de gazelle plus sûr d'elle. Clémence s'isole encore souvent, comme s'il lui fallait se protéger, prendre le temps de digérer le mouvement, les bruits, les nouveautés. Mais elle participe de plus en plus aux travaux communs et ne cache pas sa fierté devant tout ce qu'elle fait et qu'elle réussit. Il aimerait croire qu'il y est pour quelque chose, qu'elle peut éclore parce qu'elle se sent protégée. Il aimerait se dire qu'elle va encore progresser. Se sentir en confiance, ne plus avoir peur du monde entier et qu'il sera là pour l'aider. Car son parcours à elle donne du sens au sien. La psy de la prison lui dirait qu'il ne doit pas s'appuyer sur les autres pour se retrouver. Il lui répondrait qu'il n'a jamais su faire autrement qu'aider, accompagner. Il sait seulement que la limite du sacrifice ne doit plus être franchie. D'abord, se chercher lui, se chérir, se reconstruire. La petite... Serait-elle arrivée trop tôt sur son chemin après la prison? Il décide que non. L'assiette de Clémence était moins remplie que les autres, mais elle a tout mangé. Seul le pain est resté de côté. Elle a goûté une bouchée, l'a reposée, trop lourd pour son estomac renaissant. Elle a préféré les fleurs. Celui qui prépare le repas ne fait pas la vaisselle. Clémence est donc ressortie pour aller voir les chiots. Ils grandissent à vue d'œil. Elle aimerait en adopter un, mais tant qu'elle ne sait pas quoi faire d'elle-même, que pourrait-elle bien faire de lui? Elle l'adoptera ici, en cachette, et avisera quand elle repartira. Karine et Rémi boivent un dernier café. Ils ont attendu d'être seuls pour évoquer l'affaire. La veille, elle est passée à la mairie pour recueillir les informations cadastrales. Préemptée par la commune en même temps que la maison en ruine, la parcelle où se trouve la cavité a été vendue à Capucine et Adrien. Elle a eu accès à d'anciens documents qui faisaient état de plusieurs constructions autour de l'endroit en question. Le maire, de passage au secrétariat pendant qu'elle consultait les registres, lui a demandé de garder le secret sur cette affaire pour ne pas créer de tension dans le village. Les gens sont avides d'histoires sordides, et il ne fait aucun doute que celle-ci pourrait attiser les vieilles querelles qui s'accrochent aux familles comme la mousse sur les tombes de leurs défunts. Karine a promis de rester discrète, de chercher sans dévoiler, d'essayer de comprendre dans le secret le plus total. Il lui a expliqué que ses ouvrages sont des chambres de fontaines, souvent désaffectées, destinées à l'époque à distribuer l'eau aux différentes habitations en contrebas. Elles ont disparu avec le temps. Les petites fermes ont été remplacées par de plus grosses ou par des maisons modernes. Tout au plus a-t-on utilisé les vieilles pierres pour faire des murets dans les jardins. Il n'a aucune idée de l'origine des squelettes ? Non, mais il m'a suggéré d'aller voir les frères Poirot, qui n'ont jamais quitté le village et sont assez vieux pour avoir connu la guerre. L'un d'eux n'entend plus rien, mais l'autre si. Par contre, il m'a conseillé de ne pas m'y rendre seul. Tu viendrais avec moi ?
Si tu veux.
Et de ton côté, le vieux Jean t'a appris quelque chose ?
Rien.
Accoudé à la rambarde, ils perçoivent derrière les murs de la maison le son étouffé d'une capucine en sanglots et la voix grave d'Adrien. Le ton semble monter. Ils se regardent sans un mot, écrasent leur cigarette et referment la porte-fenêtre sur ce qui ne les concerne pas.